Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 19 juin, nous sommes ensemble pendant 2 heures et nous allons parler musique aujourd'hui puisque France 2 ce soir diffuse un avant-goût de la fête de la musique. Ce sera le 21 juin, vous le savez, mais ce soir tous ensemble pour la musique. On va en parler avec Alexandra Redamial, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice des divertissements et variétés de France Télévisions. On va parler des variétés en général, et puis nos auditeurs se plaignent souvent qu'il n'y a pas assez de variété, qu'on voit plus de chanteurs, donc on va en parler avec vous. Et puis Gilles Gansman, bonjour.
Bonjour madame.
On aura Rémi Pernelet, comme tous les vendredis, pour les dernières infos médias, et notre libraire préféré, Gérard Collard.
Dimanche, vous allez aller jouer d'un instrument dans
la
rue.
Bien sûr, bien sûr.
Vous n'êtes pas musicienne?
Non,
vous
pas
de
du
rien,
tout,
vous...
pas du tout, je ne joue de rien
oh,
du
je
tout.
Suis déçue.
On va... Vous jouez, Alexandra Redamial? Vous êtes musicienne ou...
Non, je ne suis pas musicienne, j'aime la musique.
Oui, voilà, moi aussi. Alors, les audiences d'hier soir, vous les regardez tous les matins, les audiences? C'est la première chose que vous faites
Je regarde les audiences, bien entendu, tous les matins, et puis particulièrement le vendredi et le samedi, qui sont nos cases au divertissement.
Absolument.
Donc je dois dire que le week-end, avec les trois enfants, on choisit les horaires, et puis deux secondes, on arrive.
Voilà, mais vous êtes obligée de regarder France 2 ou pas avec les enfants? Comment ça se passe?
Ah non, il n'y a pas d'obligation. Heureusement qu'il n'y a pas d'obligation, mais en tout cas, il y a plein de programmes qui plaisent à la famille. Donc, on est tous autour de la télé.
Autour de la télé. France 3 est arrivée en tête hier. 4 109 000 téléspectateurs pour le film Le Mur de l'Atlantique avec Bourvil. Incroyable.
Incroyable.
C'est films du patrimoine qui ont fait un carton pendant tout le confinement.
Eh bien oui, c'est les retours aux fondamentaux. Hein. C'est, on a besoin de ça quand on est bousculé.
Ouais.
Et je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et France 3, justement, nous aussi, sur les divertissements, on est tellement fiers. 1,5 point de plus par rapport depuis janvier. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, quand on voit les documentaires que l'on a fait, qui sont des documentaires, on fait plus de 14% sur les Carpentiers encore, bien sûr. Oui. Enfin, voilà. Donc on est très fiers de 1,5 point de plus depuis janvier. C'est vraiment un superbe score.
TF1 est arrivé en seconde. Alors c'est vrai que c'était Taxi, 1 million de moins que pour les Bronzés 3. Ça a fait 3 millions.
Alors, c'est pas le même genre de film.
C'est pas exactement la même chose, mais ça restait un film quand même culte. Et France 2 avec Envoyé spécial 1 827 000 téléspectateurs. Donc on est c'était les audiences hier. Qu'avez-vous regardé hier à la télévision? On a Magali avec nous. Bonjour Magali.
Bonjour.
Alors,
bonjour.
Qu'avez-vous regardé vous hier?
Moi j'ai regardé TF1 hier, j'ai regardé Taxi.
Ah.
Vous l'aviez déjà vu?
Oui, c'est un classique, je l'avais déjà vu, du coup, voilà, c'était sympa de le revoir à nouveau.
Oui, comment vous avez fait le choix? C'était plutôt que Le Mur de l'Atlantique, vous avez vu, il y a plein de gens qui ont choisi plutôt de regarder ce film avec Bourvil.
Oui, c'est vrai, j'ai hésité, mais j'étais un peu fatiguée, alors je me suis dit, bon, je vais prendre un petit truc léger.
Ah voilà, on n'a pas besoin d'être très attentif, c'est ça ce que vous êtes en train
exactement.
De dire.
Voilà. Bon, et vous allez faire la fête de la musique, vous allez chanter, danser? Ce week-end
je vais peut-être danser avec des amis, mais voilà, on verra.
Voilà. Bon, ce soir, en tout cas, fête de la musique, 3 heures, programme exceptionnel sur France 2. On va en parler dans un instant. Merci de nous avoir appelé, Magali. Gilles, on va passer au zapping.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Alors Valérie, pour le zapping, vous savez qu'après les statues et puis les rues débaptisées, c'est au tour des marques de faire leur contrition, comme Oncle Benz. Hier, colère de Philippe Douste-Blazy, c'était sur CNews, qui a dit stop à l'autoflagellation.
Maintenant, permettez-moi quand même de vous dire que ce pays a fait suffisamment contre, justement, enfin on n'en fera jamais suffisamment d'ailleurs, mais enfin, contre l'esclavage. L'esclavage, c'est une horreur de l'humanité. On l'a dit et redit, et on va arrêter aussi peut-être de passer à autre chose, parce que ce qu'ils veulent, là justement, c'est qu'on s'enferme là-dedans. Nous n'avons pas la même histoire que les Américains.
Justement Valérie, partons aux États-Unis où Donald Trump tente de faire interdire un livre d'un de ses anciens conseillers, au moins c'est radical, hein, si vous voulez pas qu'on parle mal de vous. Une histoire qu'a raconté hier Jean-Bernard Cadier, c'était le correspondant de BFM aux États-Unis. Plutôt drôle.
John Bolton, qui publie un livre où il raconte à quel point, dit-il, Trump est un homme qui ne devrait pas être président des États-Unis. Il dit qu'il est inapte. Il dit que la seule chose qui intéresse Donald Trump, c'est son intérêt et l'intérêt de sa famille. Il dit que Donald Trump est particulièrement ignare. Un jour, Trump a demandé par exemple si la Finlande faisait partie de la Russie.
Vous savez où c'est la Finlande, Valérie. Oui, rassurez-moi. Ou sinon, vous pourriez peut-être être présidente peut-être, des États-Unis, absolument. Si vous ne savez pas. À 15 jours des vacances, les Français se demandent si ça vaut vraiment le coup de retourner travailler. Ils sont si bien chez eux. Du coup, toutes les excuses sont bonnes pour ne pas revenir au travail. Micro-trottoir, c'était sur LCI.
La première angoisse, c'est de prendre les transports.
C'est vrai que j'ai un peu d'appréhension d'y retourner parce qu'il va falloir se remettre dans cette machine-là, retrouver une cinquantaine de personnes autour de nous, même une vingtaine en fait. Ça va être quelque chose qui va être assez difficile à gérer, je pense, émotionnellement.
Juste aller aussi à la cantine, ça pose un problème. Elle est souvent surchargée et respecter la distanciation à la cantine, c'est pas forcément évident. On prend quand même des risques avec ce qui se passe en ce moment, quoi.
Ben voilà, on revient pas travailler à cause de la cantine. La bonne excuse, Valérie. Et puis, on va en parler donc dans un instant. C'est la fête de la musique dimanche, ce soir sur France 2. Un milieu sinistré, le milieu de la musique qui ne touche plus leurs droits d'auteur parce que évidemment la musique n'est plus diffusée ni dans les magasins, ni dans les endroits où on avait l'habitude d'aller. Témoignage du directeur général de la SACEM hier, c'était sur France 5, Jean-Noël Tron.
90% des sources de financement des droits d'auteur en France sont touchées par la crise du Covid. Ça va être un écroulement de leurs revenus parce que même les médias qui continuent à fonctionner, leurs recettes publicitaires ayant chuté, le droit d'auteur étant financé juste comme une proportion de ce que gagne celui qui diffuse de la musique, eh ben, les radios et les télés qui vont voir leurs recettes pub baisser, ça va se traduire par une baisse de la rémunération des auteurs, même quand les médias ont diffusé leur musique. Quand il y a tous les commerçants de France qui sont fermés, nous, évidemment, la SACEM, on a arrêté de collecter les droits d'auteur.
Ouais. Milieu sinistré, milieu de la musique.
Milieu sinistré et donc accompagnement obligatoire.
Ouais.
Voilà, et c'est une des raisons pour lesquelles ce soir, on est là et on a mis toute notre énergie à mettre les artistes au devant et à la lumière. On a une mission de service public et on sera là tout le temps.
Parce qu'effectivement, c'est des conséquences auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Oui. C'est-à-dire comme la musique est plus diffusée, il n'y a plus de droits d'auteur.
Exactement.
Et c'est comme ça que les artistes sont
rémunérés. Notre rôle est d'autant plus important aujourd'hui.
Ouais. Pour Julien Roumaniac, c'est le gérant du café Le Baggio à Toulouse. Bah, lui, c'est un peu la quadrature du cercle pour pouvoir accueillir des groupes de musique, des bandas dans son établissement.
Les bandas, on va les mettre à la place de la table juste à côté de toi. On va essayer de les écarter un maximum et que les gens vraiment sur la salle, comme d'habitude, soient écartés par groupe de 10 personnes maximum.
Pour Julien Roumaniac, le gérant, la distance sociale risque de gâcher la fête.
Quand vous écoutez ces musiques-là, les gens, qu'est-ce qu'ils ont envie ? Ils ont envie de se sauter dessus, de chanter ensemble, de passer un moment convivial. Et là, ce moment, on nous le supprime pour le moment.
Voilà, un peu compliqué de s'organiser. À noter que Yvan du Loft Musique sera aussi à Toulouse pour une grande soirée sur Sud Radio de la
dimanche
fête de la musique.
Dimanche soir.
Absolument. Ouais. Et puis on va finir, restons dans la chanson et la musique avec Pierre Perret. Je ne sais pas si vous avez vu ça, Valérie, qui cartonne sur les réseaux sociaux avec son titre. Alors, Confini, inspiré par la situation actuelle. C'est du Pierre Perret, alors écoutez bien les paroles.
Aux infos, il y a le ton du lot de sadique qui compte les morts et puis à le défilé. Des professeurs, des stars, des scientifiques, et puis le rouquin, la merloc, le cinglé. Et en fin de compte, on a su pour les masques qui étaient gérés par une bande de couillons. S'il en restait plus du tout, c'était parce que ils en avaient détruit 600 millions. Ils nous ont enconfinés, puis déconfinés, puis reconfinés, qu'on redoutait d'être infinés.
Il y a de la ressource, hein, Pierre Perret.
Ah, on adore, on ne s'en lasse pas.
Non, il a toujours son humour, son petit œil qui frise. Et puis
cette qui
chanson
fait du bien.
Oui, absolument. Est-ce que vous avez entendu ce commerçant qui allait s'organiser pour la fête de la musique? Comment ça s'est passé? Parce que organiser un concert en plein déconfinement, ça ne s'improvise pas. Comment, vous avez hésité ou pas à faire cette soirée?
À partir du moment où on a compris qu'on ne pourrait pas faire la fête de la musique à Nice, et vous savez que c'est l'événement musical de France Télévisions, bien sûr qu'on s'est tous posés au téléphone, hein, puisque nous étions chez nous, et on s'est dit, il faut faire quelque chose, parce que, bien entendu, comme on vient de le souligner, on ne peut pas abandonner la filière musicale, et c'est notre rôle. Donc on a réfléchi à un événement qui permettait d'être en soutien des salles fermées, des festivals aussi annulés, et on a parlé très rapidement à l'Accor Arena en se disant c'est la salle on va dire, mythique et la plus grande salle parisienne, on a réfléchi et on s'est dit comment on peut arriver à faire quelque chose ensemble, ouais, sans public, puisque je vous le rappelle, ouais, ben qu'au oui, début, oui, on commence sans public. Et donc, on a créé un dispositif exceptionnel avec, alors, vous verrez, vous découvrirez que ce soir, notre scène est en forme de cœur, cœur de l'espoir, cœur de la vie. Ouais. Et on a mis, donc, on a créé deux scènes qui se donnent le dos et ce qui permet d'avoir justement tout ce protocole sanitaire mis en place. Donc, et des tulles, c'est-à-dire des voiles transparentes tout autour de la scène pour projeter des images de festivals, de publics de festivals et de publics de salles. Et c'est magnifique et c'est magique et très émouvant parce que l'artiste qui va chanter revit en même temps, d'une certaine manière, tout ça. Donc on va voir ce soir le mélange entre les publics des festivals et des salles et le vrai public, puisque quelques semaines plus tard, l'autorisation a été donnée et donc on est parti là-dedans.
Donc, présenté par Garou, Laurie Tillman, il faut le dire, tous les artistes ont répondu présents.
À tous les artistes ont répondu présents, je ne veux vexer personne, donc 44 artistes, 68 chansons, la nouvelle scène, la scène populaire, tout le monde a répondu présent et je ne vous cache pas qu'on était très anxieux parce que quand on s'est dit on y va, il fallait que tout le monde soit mobilisé et on s'est dit est-ce que les artistes vont accepter le jeu, et tout le monde a accepté, donc pour moi, vraiment, je vous dis, on a mis une énergie incroyable avec l'Accord Arena qui était exemplaire. Et donc, c'est vraiment... on a hâte de vivre cette soirée.
Alors, quand on a 40 stars comme Pascal Obispo, hein, Yannick Noah, Patrick Bruel, Catherine Ringer, qui décide de qui passe en premier ?
Un conducteur d'émission.
Après, il y a des égos.
Alors, je vais vous dire quelque chose.
C'est vous qui décidez ou c'est le producteur?
Non, il y a des producteurs qui sont là. Mais ce qui est génial dans une équipe, et moi, vous savez que je suis ancienne productrice pour ceux qui le savent, donc je travaille avec mes équipes de la même manière, c'est-à-dire on se met tous autour d'une table. Et puis surtout, c'est avant tout des contraintes. Ouais. Parce que je vous rappelle que quand on fait une émission comme ça, dans un protocole sanitaire de cette manière-là, on a des empex. Donc on empex depuis.
Ça veut dire des enregistrements.
Exactement. On enregistre depuis deux jours certains artistes, parce qu'il y a certaines maisons de disques qui ont dit nous ne souhaitons pas être...
Bon,
oui, bien sûr, parce qu'on prend toutes les mesures que chacun doit respecter par rapport à la responsabilité de la direction.
L'émission, elle a été totalement enregistrée.
Non. Donc, nous sommes en majorité en direct et ce conducteur, il est décidé justement beaucoup par rapport aux contraintes, par rapport à des horaires, par rapport... Voilà, il y a plein. Et après, on regarde, on ferme les yeux et on écoute la musique. Et la musique, il y a le up tempo, il y a le low tempo, il y a tout ça qui nous raconte le conducteur.
Qui va chanter en premier alors?
Un petit peu de surprise quand même. Non, moi j'aime bien les surprises. Et puis surtout, vous verrez, mais l'entrée que l'on va faire est une entrée, je trouve, très symbolique, très belle et qui va donner beaucoup d'émotions.
Bon. D'accord. Et vous avez été contacté par certains artistes ou comment ça se passe justement?
Emmanuel Viraud, qui est le producteur, qui est le programmateur de l'émission, qui a fait un boulot exemplaire et je tiens et je prends deux secondes pour remercier toutes les équipes parce que ça a été Morgane Production, Sylvain Plantard, Gérard Pont, France TV Studio avec Philippe Villamigiana et toutes les équipes qui découlent, Tristan Carnet, Frédéric Dorieux, je sais, mais c'est quelque chose dans cette période de confinement.
Parce que vous l'avez décidé quand finalement ça?
Je m'en souviens, j'étais à la maison, pas loin de mon salon, de ma chambre, et là je me suis dit on y va, j'ai taquise. On a parlé avec Delphine, Stéphane, Sidbon, Gomez, et on s'est dit on y va, on fonce. Et quand on appelle tout le monde, il va falloir que tout le monde nous suive. Donc au début c'est, t'es sûr, c'est pas un peu fou comme Paris, on est sûr, c'est très ambitieux. Et là, je dis, on fonce, on y va, parce qu'on a une mission. Et que là, au-delà de nos postes et de nos expertises, je crois que c'est la mission que l'on doit, laquelle on doit
travailler.
Exactement.
Alors, les variétés à la télévision, c'est pas simple, c'est plus simple. On a vu qu'il y en a beaucoup moins qu'avant. Vous avez quand même lancé plusieurs émissions, La boîte à secrets avec Christine Bollard, La lettre, présentée par Sophie Davant, il y a eu Les enfants de la musique, il y a eu Boyarland.
Exactement.
C'est pas évident, non, aujourd'hui, de relancer des émissions de variété.
Alors, vous savez, ce que je me dis, et justement, c'est une des raisons, quand je suis arrivée à France Télévisions, qui était mon leitmotiv, et c'était le nerf de la guerre, c'est la création. J'aime la création depuis toujours, et c'est ce qui fait que, quand j'étais productrice, j'aime me renouveler, j'aime imaginer les choses. Aujourd'hui, on a lancé plus d'une dizaine de marques en 2 ans, dont on est très fiers, parce que, justement, elles font exister les artistes, parce qu'elles mettent en avant, parce qu'elles modernisent, et parce que... On parle, c'est important le divertissement. Le divertissement, en fait, on le fait parce que moi, ce que j'aime, c'est rendre heureux les gens. Et en même temps, avec beaucoup d'émotion, ce que raconte la boîte secrète et ce que raconte la lettre. Mais aujourd'hui, la musique, on l'a partout sur nos antennes. Et c'est quelque chose qui est fantastique. On refaisait la liste, 300 chœurs, les concerts basiques tous les mois, les vies secrètes des chansons, les enfants de la musique.
Mais c'est pas des succès d'audience, il faut bien le reconnaître.
Des succès d'audience si on commence... Alors, il y a deux choses. On a des très beaux succès d'audience et puis on a des installations de marque. Voilà. Aujourd'hui, on est véritablement... Voilà. Quand on fait 9,5...
Mais c'est plus compliqué qu'avant, justement, d'installer une marque...
C'est très factuel. Ouais. Plus de chaînes, plus de difficultés, bien entendu. Les enfants de la musique, on est à 9,5 sur les dernières. Donc, on est... hyper content de cette marque qui s'installe. Oui, tout à fait. Sur les enfants, sur la boîte à secrets, on est en train de monter. Et surtout, il y a quelque chose qu'on oublie. C'est en termes de quali, on a des téléspectateurs qui sont ravis. C'est-à-dire qu'on est en train...
Ils sont heureux de, voir ce type d'émission.
Les verbatims, ce que j'appelle, c'est-à-dire le retour de nos téléspectateurs, c'est quand même heureux de voir des nouvelles choses. Tellement heureux de découvrir nos artistes différemment. Parce que c'est aussi la boîte à secrets, par exemple.
Oui, c'est ça. C'est une autre manière de raconter. Une autre manière de les présenter.
Exactement. Mais... Ouais. Donc on a Surprise Surprise, dont on a fait les 30 ans, qui fait plus de 14%.
Ça va revenir, du coup.
Du coup...
C'est sûr?
Peut-être.
Allez, un petit scoop.
Non, mais je vais pas pouvoir vous faire le scoop, parce que justement, on est en train de réfléchir avec les producteurs, de voir de quelle manière on le fait revenir, parce que ce qu'on veut, c'est une nouvelle génération.
Et Interville, définitivement.
Interville, c'est pas moi. Vous avez vu comment je me dédouane?
Ça dépend des jeux.
Mais vraiment, Valérie, et ça c'est important, on est très contents des audiences qui ont lieu là depuis janvier et qui sont bien entendu liées une grande partie au fait que les téléspectateurs sont plus devant la télé, mais surtout, regardons la PDA. La PDA est
la
très
intéressante. La part d'audience
est très intéressante. Donc non, plutôt très belles audiences.
Et puis, vous allez proposer une soirée, alors là, pour le coup, exceptionnel, le Sidaction n'a pas pu avoir lieu le 25 juin. Et alors, inspiré des émissions de Gilbert et Mariti Carpentier, des enfoirés aussi, c'est ça, ça va être une soirée un peu à sketch.
Alors non, pas du tout. On est dans les 100 ans de comédie musicale, donc on va revisiter. Qu'est-ce qui s'est passé? On devait bien sûr tourner en public, au Palais des Sports. Et puis le confinement arrive, Franck Seurat, le producteur, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où on se dit, merci encore à tous les producteurs qui ont tellement été réactifs, parce que tout le monde s'est adapté, on a trouvé des solutions. Franck avait déjà créé la fiction variété avec France Gall, me dit Alexandra, exactement, j'ai un super truc, on a une écriture nouvelle, servons-nous de ce qui se passe là, pour justement repartir sur une nouvelle écriture.
Et donc, on va voir quoi ?
Et donc, on va voir un spectacle unique.
Filmé comme une fiction,
avec justement, que ça soit les West Side Story, les Notre-Dame, New York, Roméo et Juliette, les Moulins Rouges. Et tous les artistes sont prêtés au jeu, avec les costumes, les chorégraphies. Et vous allez voir, c'est sublime.
Donc ça, ce sera le 25
juin. Avec, j'imagine, à côté, un appel au don, puisque c'est dans le cadre d'une action.
Bien entendu, en appelant le 110. Voilà. Exactement. Lynn Renaud et Marie-Sophie Lacaro, qui présente pour l'occasion et qui est une animatrice formidable
sur lequel on a découvert Valérie, sur Prodige. Avec l'arrêt du Sidaction, les sommes sont en perte. Et puis, évidemment, pour l'instant, toute la recherche est basée sur le Covid-19 et les autres recherches n'ont plus vraiment d'argent, puisqu'il y a beaucoup de choses et beaucoup de laboratoires qui ont abandonné leur recherche. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est aussi important de parler du Sidaction et du SIDA.
Et d'accompagner, et France Télévisions et toutes les antennes de France Télévisions
qui est un virus qui n'a pas de vaccin, rappelons-le.
Qui est un virus qui n'a pas de vaccin.
Oui, et donc, comme contrairement à ce qu'a dit Donald Trump.
le 110, l'appel gratuit.
Absolument. Ce soir, fête de la musique, tous ensemble pour la musique, 3 heures d'émission, vous allez tenir les temps, ça va faire un petit peu plus peut-être, non?
Peut-être un petit peu plus, mais vous savez, on a une belle seconde partie de soirée aussi qui s'appelle Tous au Festival et qui devait être un très beau documentaire aussi produit par Morgane Productions. Justement, on va revoir tous ces beaux festivals, tous ces meilleurs moments qui nous manqueront bien cette année.
Oui, alors les parcs, belle transition, habile.
C'est le jeu
Sud Radio. Merci Alexandra Redamiel d'avoir été avec nous en tout cas et de nous avoir fait partager votre enthousiasme pour tous ces programmes. programmes de variété de France Télévisions. Et nous, nous jouons sur Sud Radio et nous vous offrons des passes pour l'ouverture ce samedi. C'est demain, le 20 juin, le parc Spirou, près d'Avignon, va réouvrir. Alors c'est vrai que quand on voit que les parcs réouvrent, on se demande pourquoi les festivals ne peuvent pas avoir lieu.
Vous savez, il y a une vraie... aujourd'hui, il y a les manifestations et les événements. Il y a une vraie différenciation. Et donc, c'est là où le protocole est très, très, très précis. Donc, c'est pour ça que nous pouvons mettre du public ce soir. Absolument. Et pas, par contre, les manifestations.
Ouais. Le parc Spirou, donc, près d'Avignon, un parc thématisé. Vous, évidemment, vous étiez fan de Lucky Luke.
Mais oui, bien sûr.
Le Marsupilami, Gaston Lagaffe. On vous fait gagner des passes pour le parc Spirou. Appelez-nous 0826-300-300 et on tirera le gagnant au sort dans la deuxième partie de l'émission. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, nous retrouvons Rémi Pernelet. Bonjour Rémi.
Bonjour Valérie,
bonjour Rémi.
Vous allez bien ?
Bah oui, très bien, voyez.
Tout va bien, voilà. On est content de vous retrouver. Beaucoup, beaucoup de choses dans les médias. Le mois de mai, juin, sont toujours des mois avec des transferts, des choses comme ça. Mais on voit que le Covid est passé par là.
Tout a été gelé pendant 3 mois, mais là, tout démarre, notamment à BFM TV, par exemple, où il n'y avait pas tant de mouvement auparavant, je trouve. Et là, on vient d'apprendre que Maxime Switek, qui a la chronique 5 sur 5 dans C'est à vous depuis très longtemps, eh bien, va quitter France 5 pour arriver à BFM TV, où il va reprendre la case qui était auparavant incarnée par Bruce Toussaint. C'est la 22h minuit, vous savez, qui s'appelait de façon très modeste Toussaint Bruce Show. Toussaint Night Show. Donc Maxime Soudek reprend cette tranche, et en revanche, Bruce Toussaint, lui, reste sur BFM TV et reprend la case que la chaîne appelle stratégique de 9h midi. Donc tout le monde est content.
Rémi, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'il faut mieux être le matin ou le soir ? Qui gagne dans l'histoire ?
Alors écoutez, en audience, je pense que c'est quand même Bruce Toussaint. Il y a plus d'audience entre 9h et midi qu'entre 22h et minuit. Après, c'est une belle exposition 22h minuit parce que c'est des rendez-vous plutôt pour ceux qui ont raté les grands rendez-vous, les grands JT de 20h. Il avait quand même installé une case, Bruce Toussaint. Donc j'ai l'impression, on peut dire, parfois on dit toujours que c'est du gagnant-gagnant, c'est possible cette fois-ci.
Donc il va quitter, Maxime Jutek va quitter France 5.
Oui, c'est ça, va quitter France 5. Et donc, Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous va le remplacer. Ils l'ont déjà annoncé. Ils sont en train de chercher le nom du successeur.
Vous avez postulé, Rémi ?
Oui, bien sûr.
Je peux en parler, si vous voulez.
Donc ça, c'est les changements. On en reparlera la semaine prochaine, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements aussi dans le groupe Altice, BFM, RMC, qui vont licencier près de 500 personnes.
Il y a en
personnes.
Même temps des arrivées. On annonce l'arrivée de Maxime Futek, mais enfin, on vient d'apprendre aussi qu'il y a des plans sociaux. Il y a un gros plan social. Plus de 300 postes sont menacés chez Next Radio TV, donc qui inclut BFM TV. Il n'y a pas que BFM TV. On a aussi Webédia, on a appris c'est Allociné, les sites Allociné, c'est Pure Média. Oui, c'est ça, le groupe Fimalac de Marc Lavray de la Charrière. On aura près de 90 personnes qui devraient partir. Ouais. On sait aussi que dans la presse écrite, c'est pareil. Ouais. Le Parisien, aujourd'hui en France, il y a 30 salariés en moins. L'équipe, Bein Sport, en ce moment, il y a énormément de problèmes. Ce sont les répercussions de la crise générale la presse de la crise du coronavirus.
Ouais. Vous pensez, Rémi, c'est justifié ou il profite aussi de ça pour un peu rationaliser les choses
Je pense qu'il y a matière à débat, Valérie.
On va y revenir, on fera un débat sur le sujet.
Parce que je me suis posé la question.
Tous les secteurs sont impactés, évidemment, on l'a bien vu de l'économie, mais c'est vrai que tout ce qui est média l'est aussi. Mais on y reviendra. Quelques nouvelles de Cyril Hanouna, là aussi, ça bouge sur C8.
Qui a fini à 22h hier.
Ah bon, 22h
Oui, il a fini à 22h hier.
Oui, exactement, 21h55 exactement.
Là, c'est même, si vous voulez, de prime time sur
mais c'est très
sur
intéressant
C8.
Parce que je pense qu'en réalité, on a la configuration actuelle qui sera la configuration de rentrée de C8. Oui, plus que je le pense, c'est quasi certain. Oui. Donc on sait que C'est que de la télé va disparaître, ne reviendra pas à la rentrée. Ça a été annoncé par Cyril Hanouna et Valérie Benaïm. Et donc il va garder C'est que du kiff, l'émission qui précède Touche pas à mon poste. Il y aura Touche pas à mon poste avec quelques changements. On en a déjà indiqué quelques-uns. On avait annoncé l'arrivée de Thomas Vilches, un chroniqueur, mais il y aura aussi une rubrique avec Boudeur, c'est un enfant, vous savez, avec un enfant, il a fait des chroniques Boudeur avec son fils pendant le confinement. Il y aura aussi Noam qui faisait Question pour un balcon pendant le confinement, c'était très bon. Bon, il va arriver. Alors après, si vous voulez, on verra ce qui arrive.
Vous avez vu aussi Valérie, Rémi, il y a Patrice Lafont qui arrive. Mmh. Patrice Lafont qu'on a reçu, nous, avec Valérie, qui est vraiment pas du tout langue de bois, et je pense que c'est une bonne recrue. Ça devrait être pas mal.
Il y a Jean-Pascal Lacoste, il y a Jordan Deluxe qui sont annoncés. Alors vous savez, c'est toutes des annonces de rentrée, et puis combien de temps il reste, il dure. Ça, c'est différent. Et puis, alors, c'est pas tout. C'est que, en fait, ce qu'on va voir certainement dans la configuration de programme de C8, c'est que Apprendre ou à laisser va garder son horaire actuel.
Ah, ce sera pas 18h, parce qu'à un moment, c'était annoncé à 18h.
Non, je pense qu'ils vont rester comme ça.
C'est un vrai scoop.
Touche pas à mon poste, ça s'arrêtera à 20h, 20h15. Et ensuite, on va avoir le Apprendre ou à laisser et à voir si l'expérience d'hier, 21h55, va pas être le vrai horaire d'Apprendre ou à laisser, parce que c'est un carton hier. Hein. Ouais. Ils font plus que tous les autres primes. 1 305 000.
Ah oui, ça fait
et
plus
donc, si vous voulez,
time,
c'est plus que le prime de W9, par exemple, avec un film. Donc,
mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est très aléatoire, parce que ces boîtes qui s'ouvrent, le suspense qui dure,
le temps est difficile à gérer. Vous avez vu, Valérie, ils ont mis du divertissement. Ils ont rajouté beaucoup de divertissement. Il y a un jeu à l'intérieur où le candidat peut repartir avec un scooter
ou un invité principal.
Donc on sent bien qu'il améliore le programme pour en faire
quelque chose qui tienne la durée en prime. Il faut reconnaître quand même qu'il a un talent d'adaptation incroyable.
Alors, je ne comprends pas que vous n'ayez pas commencé par cette information quand même, Rémi, la reprise des tournages d'Amour, Gloire et Beauté.
Je sais, Valérie, je l'ai mis un peu loin dans les
titres. C'était quand même l'information essentielle.
J'ai pensé à vous et c'est quand même assez essentiel. Alors, les tournages ont repris, certes, et puis ils sont arrêtés un jour après. Eh ben oui, parce qu'en fait, la production a redémarré le tournage de ce soap. C'est l'un des soaps les plus historiques de la télévision, puisque on en est au 8000e épisode, 33e saison. Et donc, on sait déjà que cette série a été renouvelée pour 2 saisons supplémentaires. Donc, elle va durer, quoi qu'il arrive, jusqu'en 2022. Donc, ils avaient repris le tournage à Hollywood. Et en fait, il n'y avait pas assez de tests de dépistage du Covid-19, selon le magazine Variety. Et donc, il a fallu interrompre.
Un syndrome français.
C'est de courte durée. Ils vont racheter des tests, on ne sait pas qui, mais ils vont recommencer dès le 23 juin prochain. Ils vont reprendre les tournages, je vous rassure, Valérie. Ça va arriver début juillet.
Bon, faut dire quand même, Valérie, à nos auditeurs, avec Rémi et vous-même, on était à Monaco et on les a vus, les comédiens. Il faut dire quand même que c'est un spectacle de les voir vrai, parce qu'il y a tout un entourage autour d'eux. Ils ont 2-3 maquilleuses, un coiffeur.
Vous voulez dire que certains en ont vraiment besoin du maquillage.
Non,
mais
c'est-à-dire qu'on les voit tels qu'ils sont dans la série.
Absolument.
Ils se mouvent comme dans la série. Ils se meuvent. Il fallait bien que vous me repreniez. Je ne crois pas.
Autre information au programme, la série Prodigal Son, qui revient sur TF1 à la place de The Resident à partir du 1er juillet.
Effectivement, Prodigal Son, c'est une série un peu policière avec un fils qui travaille au FBI et son père est un serial killer renommé. Donc, on voit qu'il y a des pièges entre les deux. Et cette série, il n'y avait plus de doublage disponible pour les épisodes, donc elle avait été mise en pause. Et à la place, ils ont mis The Resident. Donc, voilà. Le tournage a recommencé, donc dès mercredi 1er juillet, Prodigal Son revient. À noter quand même que, les audiences étaient bonnes, 3,7 millions, mais si on regarde les audiences de The Resident, qui a pris la suite, qui est l'histoire d'une série médicale, extrêmement bien faite d'ailleurs, eh bien ça dépasse régulièrement les 4 millions de téléspectateurs, donc d'après moi, il y a plus de potentiel pour The Resident que pour Prodigal Son, d'autant plus qu'il y a des saisons D'autres saisons qui sont en cours. Alors à voir si TF1 réserve ces épisodes de The Resident pour la rentrée, c'est pas impossible.
Un mot sur un nouveau directeur des programmes à France Télévisions, Diego Buñuel, qui était reporter JRI, qui est passé par Canal au programme, qui est passé ensuite à Netflix. Étonnante nomination un mois quasiment avant la réélection ou la nomination d'un nouveau président à France Télévisions. Comment vous comprenez cette nomination, Rémi ?
C'est vrai, Valérie, d'autant que Takis Candidis avait expliqué lorsque Nathalie Darrigrand, parce qu'il va prendre la place de Nathalie Darrigrand, lorsque Nathalie Darrigrand avait quitté France Télévisions, il avait dit « Je vais faire le job de Nathalie Darrigrand, on attend la nouvelle nomination de la présidente, il espère que ce soit Delphine Ernotte. » Et puis finalement, il a changé d'avis et il nomme Diego Buñuel. Alors le profil de Diego Buñuel, vous voyez, un ancien aussi de Netflix, très branché sur le numérique, les plateformes de SVOD. C'est un bon signe aussi. Et je pense qu'en fait, il est recruté, outre ses qualités certaines, également comme un argument de campagne pour Delphine Ernotte. Sa réélection est quand même probable. Dans la situation dans laquelle on est, il y a certes Christopher Baldelli qui est également candidat. Il y a quelques
RTL,
autres candidats. Ancien patron de RTL et qui était à France Télévisions, qui était numéro 2.
Oui,
je ne connais pas tous.
Oui.
Mais Baldelli est un candidat sérieux.
Oui.
Non, moi je suis commentateur.
Il est candidat à The Voice, Rémi.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Brigitte nous dit dommage pour The Resident, ils doivent en être à la quatrième saison aux États-Unis.
Mais ça reviendra. Hein. Ça marche tellement bien que ça reviendra, il n'y a pas de problème. Ouais. Que Catherine sera sûre.
Le temps du doublage.
Allez, merci Rémi, merci à vous. On vous retrouve la semaine prochaine. Effectivement, on va revenir sur tous ces bouleversements dans la presse, dans les médias avec vous. On se retrouve dans quelques secondes avec le formidable libraire Gérard Collard. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio et nous retrouvons Gérard Collard, l'excellentissime libraire de la Griffe Noire à Saint-Maur. Bonjour cher Gérard.
Vous pouvez me le redire, c'est sympa, j'aime bien.
Voilà,
ça, le matin,
vous voulez
bien.
Que je vous le redise encore. Bon, il va falloir revenir en studio Gérard.
Parce que là, physiquement, vous me manquez.
Oui,
là, hein.
Oui.
Franchement,
bon,
c'est physique.
Ne dévoilez pas notre vie intime. Qu'est-ce qu'on peut lire cette semaine ?
Alors, je l'ai gardé pour les dernières semaines parce que j'adore ce bouquin et je voudrais qu'il devienne pour l'été un bouquin un peu phare. C'est un bouquin de Pierre Jarawan. Alors, Jarawan, c'est J-A-R-A-W-A-N. Ça s'appelle « Tant qu'il y aura des cèdres » chez Héloïse d'Ormesson.
Ah oui.
Alors, c'est absolument... Alors, je me suis fait avoir par ce bouquin. Vous êtes au Liban, ça commence vous êtes au Liban. C'est l'histoire d'une famille, d'un petit garçon. Et puis, alors, cet art, vous savez, de vivre ensemble dans la rue avec le soleil, la musique. On est entre voisins, on se fait la cuisine, enfin, le partage, enfin, tout ce dont on rêve et qu'on n'a jamais. Et puis, arrive la guerre. Hein, donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il fuit le Liban parce que c'est plus tenable. Ils vont se retrouver en Allemagne. Ils vont essayer de reconstituer un peu cette communauté à travers leur façon de vivre. Et puis un jour, alors il y a le père, hein, tout absolument figure tutélaire, tout va bien, enfin tout relativement bien malgré qu'il soit émigré. Et puis un jour, le père il disparaît. Puis il y a la mort qui rôde autour. Il y a des secrets, il y a quelque chose. Et le fils, il est absolument traumatisé par ça. Et il va partir au Liban chercher ce père, savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce que c'est quelle est cette espèce de secret qui rôde autour de cette famille, de ce pays, et c'est un immense livre de suspense, c'est surtout un hymne au Liban, au soleil, c'est lumineux, c'est sensuel, c'est tragique, il y a de l'amour, de l'amitié, c'est fort, j'adore on n'en parle pas beaucoup, et je trouve que c'est vraiment une injustice, parce que vous êtes complètement enveloppé par ces personnages, vous êtes complètement, puis c'est un peu une leçon de vie aussi, parce que vous dites que nous, dans notre coin, on vit chacun de notre côté, bon d'accord, on se fait des petits dîners entre nous, mais il n'y a pas cette générosité. Et puis malgré tout, il y a la vie, il y a la mort, il y a la guerre, il y a la trahison.
Et puis, c'est cette douceur de vivre qu'il y a pu avoir au Liban, quoi, ce pays où il faisait, en tout cas, bon vivre. Et c'est vrai que, vu par les yeux de ce petit garçon, c'est assez...
C'est incroyable, parce qu'on rentre dans la tête, on imagine ce que c'est que le traumatisme pour ce petit garçon. C'est-à-dire qu'il passe du paradis, il passe en Allemagne, où on ne peut pas dire que les conditions météorologiques et tout soient quand même l'Atlantique. Donc il y a une cassure et puis il va retrouver son pays là et c'est une redécouverte. C'est merveilleusement écrit. C'est prenant, c'est pas stressant. Enfin, c'est pas glauque, ouais, ouais. Pas. C'est oui, pour c'est les pas vacances. La, c'est pas j'ai la guerre, autre chose ouais. À. Ouais, c'est j'ai autre chose. Non, non, c'est un livre intelligent, c'est un livre bien écrit, c'est un livre comme on aime parce que je trouve que ça refait découvrir des épisodes de notre histoire, ça fait découvrir des autres façons de penser, de voir le monde, de voir la vie. C'est absolument magnifique. Franchement, voilà. Je vous le garde pour la fin de nos émissions avant l'été là parce que c'est vraiment un incontournable pour moi.
Ouais, on peut redire un mot du Woody Allen parce que c'est un plaisir. Ouais. Moi, je ne le finis pas parce que j'ai pas envie de le finir et c'est vrai que c'est, enfin, si vous aimez Woody Allen, si vous avez envie d'entendre ce qu'il a à dire sur l'affaire dont il est accusé, je vous conseille le livre parce que vous allez retrouver le Woody Allen des films, son ton, son humour, son humeur. Alors je pense qu'il marche très bien, il n'a pas besoin
très,
de nous.
Très bien.
Mais non. C'est vrai que c'est un livre sympathique. Puis alors je vais peut-être vous surprendre, j'ai lu, parce qu'on va recevoir Patrick Sébastien, son livre Déplacer l'éléphant chez IXO. Et franchement, on sait, avec Gilles Gansman, on s'est marré à lire le livre parce que ce sont des petites phrases qu'il a glanées tout au long de sa vie, alors qu'il remet en situation, hein, c'est pas un abécédaire, mais franchement, il y a de l'humour, il y a de la tristesse, c'est un peu à l'image de Patrick Sébastien, c'est pas forcément ce à quoi on s'attend, et moi j'ai pris du plaisir à le lire, c'est un livre, un livre qu'on peut prendre pendant les vacances, parce qu'il raconte, ses rencontres avec certains chanteurs, il raconte Coluche, il parle de plein de choses, c'est assez super, vraiment.
Là, souvenez-vous, on s'était battu pour le premier, on s'était fait incendier en absolument. Disant comment vous pouvez soutenir ce livre par un type pareil. Et c'était un magnifique livre qui a d'ailleurs bien marché. Et c'est... Alors, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, à notre époque, ce qui est quand même rare, il est vivant.
Ouais. Il est vivant,
parce qu'il y a tellement
d'ectoplasme.
Il n'est pas conformiste. Alors, chacun a choisi son truc. Hein, mais voilà, moi, je trouve qu'il ne faut pas partir avec des a priori, parce que c'est la grande mode en ce moment, c'est de dire je ne lirai pas ça. Ouais, alors que voilà, ça m'horripile aussi. Ouais, c'est vraiment. On est tombé dans le vide. Alors, je suis tombé sur un truc. Alors, vous vous souvenez, on avait parlé et on a adoré Jackie Durand, Les recettes de la vie. C'est paru en folio, qui est un livre savoureux et tout. Et moi, je suis tombé par hasard, hein, parce que je ne connaissais pas ce type. Il paraît qu'il en a écrit un qui était génial et tout, mais je ne l'ai pas lu. Il s'appelle David Zaoui. Z-A-O-U-I, il s'appelle le financier en chef chez Lattès. Alors c'est l'histoire d'un petit garçon qui vit dans l'est de Paris, c'est pas l'ouest, hein, c'est pas Chevreuse et tout ça. Il s'appelle Jackie, ils l'ont appelé Jackson parce que sa mère est folle de Michael Jackson. Alors le drame c'est quand Michael Jackson meurt. La mère elle est pas très bien, donc il l'appelle Gigi parce qu'elle peut plus l'appeler Jackson. Hein. Et puis ce gosse il a un rêve, c'est de devenir cinéaste. De faire des films, de devenir, voyez, la star française du... Et le pauvre, ça fonctionne pas du tout. Et donc, il faut qu'ils trouvent du fric, hein, parce qu'ils n'ont pas d'argent, il faut qu'ils vivent. Donc, il va se faire un faux CV, comme certaines personnes le font. Mais en tant que financier, comme spécialiste financier, alors le problème, c'est qu'il n'est pas du tout financier. Et il est pris parce qu'il est tellement bon à la tchatch, qu'il va se retrouver dans une boîte. Et dans cette boîte, il se dit, je vais pas tenir. Mais dans cette boîte, il y a un truc, il y a une cuisine. Et là, il va découvrir que on peut tenir les gens, enfin un petit moment, grâce à la gourmandise, grâce à la choucroute. Il va peut-être pas le tenir grâce au bilan, mais il va pouvoir le trouver grâce à la choucroute, à plein de recettes. Il a un talent fou qu'il ignorait. Et alors il y a un suspense parce que à la fin, on découvre que c'est une supercherie. Mais que va-t-il devenir ? C'est savoureux, c'est drôle, c'est plein d'humour. Il faut prendre pour ce que c'est. C'est-à-dire que vous savez, quand il fait chaud, vous prenez une glace, c'est bon, il en reste plus forcément grand-chose à la fin, mais vous avez passé un délicieux moment. Et ben, si vous voulez vous changer un peu les idées, si vous voulez retrouver un peu les recettes de la vie avec ce côté humour, et ben, vous lisez Le financier en chef chez Jean-Claude Lattès de David Zaoui. Et moi, j'ai passé un super bon moment. Ouais. Voilà, c'était savoureux, c'était comme un bonbon. Ça donne pas de caries et ça donne du plaisir.
Et puis rappelez le livre de Jackie Durand qu'on a beaucoup aimé, qui vient de paraître en folio, qui s'appelle Les recettes de la vie. Le titre est excellent.
C'est chez Folio, c'est pas cher.
C'est un bouquin, c'est assez marrant, qui a connu un succès assez incroyable, qui est traduit dans plein de pays. Et franchement, allez-y. En folio aussi, je vous signale 1984. regarde, c'est marrant parce que moi, je me suis dit, tiens, j'avais envie de le relire. Et paf, il ressort. Donc, très bonne initiative également des éditions Folio. Tout le monde parle de 1984. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui l'aient lu.
Non.
Moi, c'était il y a très longtemps. Donc, je vais m'y replonger avec beaucoup de plaisir. Je vous signale le livre de Lisa Azuelos. Vous savez, Lisa Azuelos, elle est auteure, réalisatrice. Elle avait fait le film LOL, entre autres.
Ouais,
elle parle très bien des ados, des femmes. Et là, elle parle de l'après-enfance, c'est-à-dire ce qu'on appelle le nid vide, quand les enfants s'en vont de la maison, le mari est parti également. Donc, c'est un moment parfois difficile pour les femmes après la cinquantaine. Et puis, c'est un livre qui est plein d'espoir parce que ça montre qu'on peut avoir un nouveau départ. Et puis, c'est sa manière à elle de raconter les choses, toujours très juste sur la psychologie des femmes. C'est un livre, cette femme qui a passé, comme beaucoup de femmes, sa vie à s'occuper des gens, elle a décidé de s'occuper d'elle. Et c'est très émouvant. Et puis, c'est vraiment les engagements de Lisa Azuelos à propos du féminisme. Et elle dit que voilà, quand on est femme et qu'on a élevé ses enfants, on n'est pas seulement une mère au foyer, on a fait beaucoup plus et qu'il y a parfois une vie même après les enfants. Donc, c'est chez Belfond et c'est un joli livre. Ça s'appelle La vie en ose, et non pas en rose, le titre est en rose. Ouais. Lisa Azuelos.
On va, finir par croire que les femmes sont formidables. Hein.
Oui.
C'est vraiment le monde à l'envers. J'ai trouvé un polar, mais alors une horreur. On en avait parlé dans l'émission il y a déjà un bon moment. La fille, elle s'appelle Suzy Fox, Fox, hein, s'appelle L'Erreur chez Pocket et c'est infernal. C'est l'histoire d'une jeune femme qui rêve d'avoir un enfant. Elle va y arriver, elle a sa grossesse, elle arrive à l'hôpital, tout va bien, on lui fait une césarienne et elle a pour avoir son bébé, on lui présente son bébé et là, elle est certaine que ce n'est pas le sien. Mmh. Elle est absolument certaine et tout le monde va lui dire mais vous êtes folle, enfin c'est votre bébé. Et elle, avec cette espèce d'infime conviction, elle va se battre envers et contre tout. Et vous allez voir que psychologiquement, c'est machiavélique parce que, alors je n'ai pas de bébé, je ne suis pas une femme, enfin pas encore, et je me suis mis dans la tête de cette femme. Et c'est à devenir absolument fou. C'est un suspense implacable, mais implacable. Il n'y a pas de meurtre inutile. Il y a pas. C'est tout se passe dans la tête jusqu'à une fin qui va vous laisser. Voilà. Est-ce qu'elle va récupérer son bébé? Est-ce qu'elle est folle ou est-ce qu'elle est pas folle? Est-ce que voilà. C'est voilà. Il n'y a pas un mot de trop. Il n'y a pas un mot. Inutile. Vous êtes complètement dans le. Tout est subtil, délicat, juste et tout. Et c'est un peu l'arc psychologique comme j'en ai rarement vu. Vous ressortez de là-dedans. Il vous faut un peu respirer. Et puis, je voudrais pas être. Alors, ne le donnez pas à quelqu'un qui va être qui attend un bébé ou qui va accoucher parce que là, ça va poser problème. C'est pour après, hein. Quoique après, elle est capable de regarder son gosse différemment.
Ah ouais.
Mais, c'est implacable.
Alors,
c'est une machine. Ça s'appelle L'Erreur. Ouais. La fille, elle s'appelle Suzy Fox. Mmh. Et c'est pas cher, hein, c'est chez Pocket.
Bon, très bien. C'est bien aussi les poches, c'est pas cher, on le rappelle. Et,
c'est
très pratique, absolument.
Voilà.
Quoi d'autre ?
Alors, je peux vous rappeler, on en avait déjà parlé, mais pour moi, c'est un des polars les plus machiavéliques, les plus forts, les plus... je m'en souviens encore, alors que j'en lis des tonnes, c'est Adrian McKinty, c'est La Chaîne, chez Mazarine.
Ouais.
Et c'est pour moi l'intrigue la plus incroyable, la plus diabolique, la plus incontournable, la plus que j'ai jamais lue. C'est l'histoire de cette femme qui est un peu malade, hein, et puis on lui annonce que sa fille a été enlevée, mais le machiavélisme n'est pas là. C'est que si elle veut récupérer sa fille... elle doit verser
elle-même,
de l'argent à quelqu'un, mais elle doit aussi elle-même enlever une petite fille ou une jeune fille et demander aux parents, eux aussi, d'enlever la jeune fille. C'est pour ça que ça s'appelle La Chaîne. C'est terrifiant. Je vais vous dire, c'est absolument terrifiant. Si vous êtes parent, c'est ce que je disais, c'est votre peur la plus intime. C'est vraiment... et nous, on le vend depuis... et les gens reviennent. Alors, ils viennent l'acheter, mais ils sont... Ah oui, c'est incroyable. C'est certainement un des polars qui a le plus de personnalité cette année. Et c'est un de ceux qui a vraiment marqué les gens par son originalité, sa différence, sa force. C'est la couverture, elle n'est pas terrible. Mais une fois que vous êtes dedans, l'engrenage, vous êtes foutu. Et vous avez des frissons, mais jusqu'au bout. Et vous mettez à la place de cette femme. C'est incroyable.
Eh ben, merci beaucoup Gérard pour tous ces livres. Merci à vous. Très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres avec vous.
Oui.
Très bonne journée à l'écoute de Sud Radio. Nous, on se retrouve dans un tout petit instant avec vous pour commenter l'actualité. Et on a le gagnant de notre grand jeu, c'est Laurent. Bonjour Laurent.
Oui, bonjour.
Bonjour, comment ça va?
Impeccable. Ça
impeccable.
Va très, très...
Donc vous avez gagné ce pass pour le parc Spirou près d'Avignon. Vous êtes content?
Ah oui, ça va être génial. On m'a amené les garçons, je pense qu'ils vont se régaler.
Oui, vous avez combien d'enfants?
J'ai deux garçons de 5 et 12 ans.
Ah, génial.
Et ma femme et mon épouse, un garçon qui est plus grand, qui a 18 ans, mais qui, je pense...
Ça
devrait lui plaire.
Oui,
voilà.
Oh, je pense qu'on va. Ça devrait bien se passer, effectivement. Ça devrait très, très bien se passer. Donc, vous allez avoir 4 passes pour découvrir en famille le parc Spirou Provence près d'Avignon grâce à Sud Radio. Voilà. Eh bien, écoutez, on est ravis pour vous, contents et merci de votre fidélité. Et il y a également, je vous signale, des passes pour le parc Spirou Provence à gagner en likant la page Facebook de Sud Radio. Voilà. Plein d'émotions. En tout cas, avec, parce qu'il y a pas, il y a tous les personnages évidemment que vous allez retrouver, mais il y a évidemment beaucoup d'attractions avec le Spirou Racing, le Fantasio dans sa turbo-traction. Effectivement, vous devriez passer un très bon moment. Très bonne journée à vous. On se retrouve dans un tout petit instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.